France Culture.
Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. THX, Dolby Stéréo, des technologies à utiliser systématiquement. Jadis, le son, on s'en moquait un peu au cinéma. La musique, non. On pourrait faire un parallèle entre la photo et le son. Quand on veut faire un portrait, disait Walter Murch, il faut que le visage soit très précis. Le fond peut être flou. Idem pour le son. On peut rendre flou la musique pour que l'oreille puisse saisir les dialogues. Walter Murch, ingénieur du son, sound designer, on lui doit le son d'Apocalypse Now, un créateur de son, parfois un créateur de silence. Il était l'invité dans Le rythme et la raison de Philippe Delacroix. C'était sur France Culture le 11 mai 1988. Son et cinéma, la technique des effets spéciaux.
Bonsoir. Troisième partie de cette série sur le son au cinéma. Ce soir, les effets spéciaux sonores. Les studios américains d'Hollywood rivalisent dans la catégorie des films à grand spectacle et à gros budget, qu'ils soient de science-fiction, d'horreur ou de catastrophe. La guerre des étoiles, la tour infernale, le naufrage du Titanic, King Kong, The Day After, Alien, Au-delà du réel, autant de films qui marquent un travail permanent et incessant des ingénieurs du son et des sound designers pour nous emmener toujours plus loin et toujours plus fort. Depuis l'utilisation du Dolby dans le film Nashville en 1974, qui permet une restitution sonore de grande qualité, on attendait ce qui allait révolutionner le son dans les salles obscures, et on l'a enfin trouvé, c'est le THX, développé dans le studio de George Lucas, à Hollywood, l'homme de la trilogie de la Guerre des Étoiles. Le THX, c'est en bref un procédé de spatialisation et de restitution sonore extraordinaire. Accrochez-vous à vos sièges, fermez les yeux, augmentez le volume de votre radio, attention, le voyage commence. Bref, retour en arrière, à Nice, en avril dernier, les rencontres cinéma-son. Michel Rodolfi y a convié Walter Murch, américain d'une quarantaine d'années, monteur, scénariste, réalisateur et surtout passionné d'effets spéciaux. On lui doit le son de films comme Le Parrain, American Graffiti, THX 1138 ou plus récemment L'insoutenable légèreté de l'être. Mais on lui doit aussi l'atmosphère prodigieuse, à la fois fantastique et réelle, du film de Coppola, Apocalypse Now. Walter Murch, personnage étonnant, Deus ex machina de nos sensations cinématographiques, de nos peurs, de nos rires. Walter Murch se présente.
Je suis un... Je ne sais pas si c'est un mot en français, mais en anglais, on dit sound designer, un dessinateur de son. Et c'est quelqu'un qui a la responsabilité d'organiser le son d'un film et de le présenter au metteur en scène pour qu'il puisse décider quels effets il veut choisir. La piste sonore des films est devenue très très complexe pendant les dernières dizaines d'années. Et donc, c'est pour cette raison qu'il existe maintenant ce rôle dans le monde du film. Ce que vous pouvez entendre dans American Graffiti, par exemple, c'est peut-être plus le traitement de la musique. Lucas a voulu que la musique commence au commencement du film, et puis pendant tout le film, on entend de la musique, c'est-à-dire presque 100 minutes de musique qui... serait intolérable si on n'a pas découvert un certain traitement, une méthode de varier le focus de la musique pour qu'on puisse entendre le dialogue, mais au même temps d'avoir le niveau, un niveau assez élevé de la musique au même temps.
Quel traitement technique avez-vous appliqué donc à ce film pour que l'on entende sans entendre tout en entendant, comme on pourrait dire en français ?
Une certaine diffusion de la musique. Il y a un parallèle avec des méthodes de photo. Quand on veut faire un portrait de quelqu'un, on s'assure que le visage soit très précis, mais dans le fond, au fond, que ce soit des arbres ou des fleurs, que ce soit un peu flou, oui, c'est ça. Alors, nous avons trouvé une méthode de rendre flou la musique pour que l'oreille puisse saisir le dialogue et puis, au même temps, entendre la musique, mais sans que la musique ait des edges, des coins. Oui, sans coins. La musique sans coins, c'est ça.
Apocalypse Now, préparatif pour un bombardement au napalm.
Smells.
J'ai travaillé beaucoup sur des effets sonores dans Apocalypse Now. Je ne peux pas choisir, mais il y a une explosion dans ce film avec de napalm. Puis pour achever cette explosion, il fallait 2 jours de mixage, je crois, pour que ça représente, à mon avis, un vrai explosion de napalm. Bien sûr que ce soit une explosion de l'imagination. J'ai jamais entendu moi-même l'explosion vraiment. Une vraie explosion de napalm dans la jungle. En même temps, je suis aussi très fier de certains moments de silence dans ce film. Et aussi, on doit dire qu'il est aussi difficile de créer des moments de silence qui convainquent que les moments de grand bruitage.
Dans la jungle, un soldat, il a peur. Atmosphère moite, il va être attaqué, mais pas par ce à quoi il s'attend.
What is it? Charlie? Lucy?
Ma question, elle est de savoir si, pour vous, des systèmes comme le Dolby Stereo, le THX même, sont des systèmes qu'il faut appliquer systématiquement à tous les genres cinématographiques.
Ce sont comme des lunettes. On regarde à travers des lunettes, mais on peut regarder n'importe quoi. Ce ne sont pas des systèmes qui forcent les spectateurs de regarder ou bien d'écouter quelque chose en particulier. Ce sont des systèmes totalement transparents.
On peut quand même penser qu'un son THX dans une salle, donc avec une spécialisation, des sons qui arrivent de partout, des graves assez forts, ça mobilise plus le spectateur vis-à-vis d'un film. Quand il reçoit une masse sonore dans le ventre, il réagit différemment que devant un spectacle purement frontal.
Oui, mais vous parlez de deux choses ici. Le système THX et le système Dolby sont des systèmes comme les ondes, comme je disais, comme les ondes FM sur la radio. On dit on peut utiliser les basses ou pas. Ce n'est pas une règle qu'on doit utiliser toujours les fréquences super basses ou des atmosphériques.
Michel Rodolfi, au Palais Acropolis de Nice.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la deuxième journée des rencontres européennes cinéma-son, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Steven Katz pour la projection exceptionnelle de Altered States, Au-delà du réel, de Ken Russell. Cette journée était dédiée à la composition instrumentale et à la partition sonore, et il nous a semblé en effet opportun d'avoir cette grande représentation de ce film pour les raisons suivantes. Plusieurs musiciens ont collaboré à ce film. D'une part, le compositeur américain John Corigliano, et d'autre part, le compositeur français Pierre-Henri, qui est d'ailleurs parmi nous ce soir. Et Steven Katz a conçu la partition sonore, le lien pour unir ces deux compositeurs, leur musique, et pour cela aussi, il a créé des effets spéciaux et une spatialisation qui sera rendue ce soir dans le même format, la même mouvance que celle qui avait été installée pour la première à Los Angeles en 1979. Pour cela, Steven Katz, qui a aussi, rappelons-le, été le premier à avoir implanté, à avoir mixé en Dolby, s'il s'agissait du film Nashville de Altman en 1974. Donc pour cette soirée, Steven Katz a, avec l'équipe d'Acropolis, redonné une configuration un peu concertante à cette salle. Steven, peut-être vous voulez dire quelques mots sur l'installation de ce film.
Merci. Some extra special modifications. You see the two gigantic towers on the left and right of the stage.
Ont été branchés les deux châteaux de haut-parleurs que vous voyez à gauche et à droite de l'écran.
We have them wired just to reproduce the bass.
On les a donc connectés aux cinq haut-parleurs, on n'a pas parlé de Steven Katz, mais les cinq grands haut-parleurs qui sont derrière l'écran, uniquement pour reproduire le spectre grave.
It's a Dolby we did for an invention we did for Dolby we call Baby Boom.
On a appelé ces haut-parleurs des Baby Boom.
Besides the 30 surround speakers around the theater, they were kind enough to let us also use the Bose speakers that they have on the side and the rear.
En plus des 30 haut-parleurs d'ambiance qui sont autour de vous et derrière vous, ont été ajoutés aussi des haut-parleurs Bose pour compléter le système.
And now you may ask why we did all this.
Et maintenant vous vous demandez pourquoi.
And some things to look for, and you tell me if they work for you, is that I very much believe in ambience, that the whole audience should be inside of the film.
Je crois beaucoup au pouvoir donc du système d'ambiance qui permet d'immerger le public au milieu de la représentation.
Le son de Steven Katz pour le film de Ken Russell, Au-delà du réel, grand film psychédélique. Pour être complet sur les sound designers américains, il me faut évoquer le travail de Frank Serafin. Frank Serafin crée des sons, des motos supersoniques, des sons de rayons laser tueurs, des sons de bombes astrolunaires. Pour lui, il faut inventer, toujours plus inventer. Dans Tron, la production de Walt Disney, le héros devient partie intégrante du jeu vidéo auquel il joue. Il s'agit donc pour Séraphine d'inventer tous les sons d'un monde imaginaire. Musicien, bruiteur, ingénieur du son, Séraphine enregistre, échantillonne et fabrique des sons pour des objets impensables, des événements irréels. Bref, tout ce qu'il faut pour un cinéma de fiction qui extrapolerait le réel. Un compositeur et cinéaste comme Michel Fano, que nous entendions lors de la première émission de cette série consacrée au son au cinéma, ne partage pas le point de vue de ces sound designers américains. Trop souvent, regrette-t-il, le scénario est indigent et ses effets sonores fantastiques ne font que masquer cette indigence. De plus, le son est parfois si fort qu'il en devient douloureux à nos oreilles. Michel Fano.
Dans ces films à grand spectacle sonore, non seulement les effets sonores, les dispositifs employés sont nombreux et compliqués, mais il intervient maintenant un nouveau phénomène. C'est une, semble-t-il, une demande de plus en plus avide de puissance sonore. Et dans la projection qui a été faite au-delà du réel, de Ken Russell, on a atteint un niveau mesuré de 108 décibels, ce qui est considérable quand on sait que le seuil de douleur, c'est-à-dire le moment où l'oreille commence à faire mal, se situe à 120 dB, c'est-à-dire finalement extrêmement près. Que faire ? Ce sont, à mon avis, des questions sans réponse, étant donné que, vous savez, moi je pense que l'oreille, je pense cela le penser, du reste, est directement liée à l'inconscient de l'être humain, et que s'il y a une demande de l'oreille, une demande de boulimie de l'oreille. Bon, on sait ce que, sur le plan psychique, la boulimie vient masquer. Alors peut-être que c'est la même chose pour la boulimie sonore, n'est-ce pas ? Bon, c'est en tous les cas, à mon avis, à ce niveau que cela se passe. Et donc, c'est plutôt un problème d'inconscient collectif qui se pose là. Okay. Check and clear. Have a better one.
Blade Runner, Ridley Scott. Retour au plaisir, peut-être parfois un peu aveugle, du son qui nous saisit à la gorge. Retour à Walter Murch, qui réfute les analyses des cinéastes français qui, comme René Alliot, nie tout à fait l'intérêt de ses inventions technologiques. Walter Murch, dans l'origine de cette passion pour le son, est pourtant situé de ce côté-ci de l'Atlantique.
Je dois dire que quand j'avais 12 ans, à New York, j'étais fou des magnétophones. Et j'ai entendu à la radio quelque chose pour moi très inattendu. C'était une composition de Pierre Schaeffer qui s'appelle « Symphonie pour un homme seul ». Et ça m'a tellement frappé. C'était pour moi une boussole ou un compas qui indique un nord magnétique de l'imagination vers qui je me suis mis à marcher et vers qui je marche encore. Ce que j'ai essayé de faire pendant tout mon travail, c'était de faire des bandes-son qui soient un peu à l'écart des bandes son conventionnelles. C'est-à-dire, il y a des points de contact entre l'image et le son, mais il y a aussi des moments où le son vire à gauche, disons, et retourne 30 secondes plus tard et touche l'image. C'est comme une danse pour moi.
Musique de Nino Rota pour Le Parrain. Personnellement, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Ce sont les effets sonores à outrance ou est-ce que c'est précisément une qualité de silence ?
Je dois dire que c'est le silence pour moi. Parce que à ce moment, vous avez tiré l'attention des spectateurs et il existe peut-être un effet sonore, mais un effet qui est totalement dans le cerveau de chacun dans la salle.
Vous pensez au silence du moment, par exemple, dans Apocalypse Now, avec Marlon Brando, dans les moments d'observation entre Martin Sheen, si je ne me trompe pas, et Marlon Brando?
Oui, mais aussi le moment où, juste avant que le tigre saute du jungle, et aussi il y a cette séquence sur le pont, le soir, où on tire sur un Vietnamien qui est caché dans les ombres. Donc, la piste sonore est devenue à ce moment absolument muette.
He just wanted to go out like a soldier, standing up. Not like some poor, wasted, rag-assed renegade. Even the jungle wanted him dead. And that's who he really took his orders from anyway.
C'était Le rythme et la raison, son et cinéma, la technique des effets spéciaux par Philippe Delacroix, première diffusion sur France Culture le 11 mai 1988.